Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Ma femme d'aujourd'hui perd son papa à 8 ans et demi. Mais depuis, sa mémoire continue de vivre et aujourd'hui, elle lui consacre une partie de sa vie. On y va pour les détails.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Neila Fenich, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va la Neila ?
Très bien, je te remercie. Alors, merci de m'avoir invitée, Yasmine.
Un plaisir de te recevoir, vraiment. Alors Neila, tu es vraiment une femme à plusieurs casquettes, comme d'ailleurs beaucoup de femmes marocaines finalement. On est nombreuses à porter de nombreuses casquettes, de nombreuses missions. Mais la tienne, en fait, tes casquettes sont assez particulières parce que l'une d'elles est née vraiment de beaucoup de douleurs. Alors juste pour mettre un petit peu notre communauté dans le contexte. Toi, tu as un poste, donc tu travailles dans une institution nationale. Tu es maman, tu es sœur, tu es fille, etc. Donc, tu as une vie déjà bien remplie, mais un deuil va faire en sorte que tu prennes une nouvelle mission et que tu la greffes à tout cela.
Effectivement.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, écoute, donc, moi, j'ai perdu mon papa à l'âge de 9 ans, plus exactement à 8 ans et demi. Et puis, il avait à peine 45 ans, donc un enfant de 8 ans et demi. Ma sœur, elle avait 10 ans et mon frère, 1 an. Donc, c'était une très grosse perte, vraiment une très, très grosse perte. Et donc là, ben, enfant, il y avait ben, un arrachement, donc un amour paternel qui n'est plus là. Et donc en allant dans les archives, en allant dans les souvenirs, il y avait toujours quelque chose qui m'accompagnait dans ma vie d'adolescente, dans ma vie de jeune femme et dans ma vie de femme. Et dans la douleur, il y avait pas uniquement ce deuil-là, mais il y avait aussi la découverte en fait d'un homme public, d'un homme qui a laissé beaucoup de choses. Un parcours très court, mais très
riche.
Très intense, très riche, effectivement.
Ouais. Alors, il était médecin et musicologue, c'est bien ça.
Effectivement, il était médecin, il était musicologue. Il était compositeur de grands opéras marocains. D'ailleurs, la toute première opérette marocaine en 1977 lui revient. Voilà, donc je voulais que tout ça sorte des tiroirs, que ça reste pas uniquement cloîtré dans des murs de maison, et que ça continue en fait, que sa mémoire continue de vivre à travers le temps.
Oui. Alors tu as lancé tu as lancé une fondation qui porte le nom de ton papa.
Effectivement.
Ok. Alors cette fondation, tu l'as lancée il y a combien d'années exactement?
Officiellement, c'était en 2018, oui. Donc c'est quelque chose que je voulais faire beaucoup plus tôt, mais c'était une question de temps. Donc moi, j'ai étudié à l'étranger et cette question de fondation, ça me taraudait l'esprit. Je me disais, la fondation continue de vivre malgré la mort d'une personne, donc je voulais quelque chose d'éternel. Et donc là, j'ai commencé à chercher, à voir un petit peu comment ça fonctionne au Maroc. Donc, c'était un régime complètement différent. Et donc là, j'avais le 20e anniversaire du décès de mon papa. Et je me disais, ben là, il faudrait créer quelque chose, il faudrait faire quelque chose. Je n'avais pas à l'époque la fondation. Je me suis naturellement guidée vers Rebat el-Fetch, où il était... présent. D'ailleurs, le Bolchoï, c'est lui qui était mécène de cette opération au Maroc la toute première fois. C'est lui qui l'avait ramené au Maroc sous l'égide de Rebat el-Fetch. Et donc, j'ai été toquée à l'association Rebat el-Fetch pour organiser le 20e anniversaire de son décès et pour faire revivre les parcours importants de sa vie. Et on a fait revivre l'ouverture de la première opérette marocaine, donc Minad Dolomati il al-Nour, des ténèbres vers la lumière. Et on a fait revivre l'opéra andalou, Min Sous ila al-Andalus. Et donc c'est là où j'ai eu le déclic était là. Je me disais, le 20e anniversaire, là, ça doit être une continuité. Sauf que ben, j'ai pas pu, j'étais maman, j'étais enceinte, je venais d'accoucher. Ouais. Donc j'ai réalisé ce rêve de réaliser le 20e anniversaire, c'était quelque chose de magnifique. Et puis après, j'ai décidé de faire une pause. Je me suis dit, ben là, je suis maman, je dois accorder du temps à mon bébé, à mon enfant. Et en 2018, là, je me suis dit, non, il y a des choses qui me tiennent à cœur, il faudrait le réaliser, il faudrait mettre en place tout ça avec une stratégie, avec un plan d'action. Et donc, officiellement, donc depuis 2018, la Fondation Dr Daphné Fenech existe et on y travaille en famille, chacun apporte sa pierre à l'édifice.
Alors, c'était pratiquement 30 ans après son départ ?
Effectivement, ouais. Pratiquement, effectivement, tout à fait. D'ailleurs, donc le 30e anniversaire, on avait décidé de faire quelque chose en musique. Effectivement, tout ouais. à fait, Yasmine.
Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que de l'âge de 8 ans jusqu'à le lancement officiel de la fondation en 2018, ça c'est une petite fille, une ado, une jeune femme, une maman qui a grandi. Et finalement, même si ton papa est parti quand tu avais 8 ans et demi, on n'oublie jamais, en fait.
Tout à fait, tout à fait. Ben, les souvenirs nous accompagnent. On vit avec. Mmh. On vit avec.
Mais tu sais, je vais te dire une chose, Naila. Nous, on s'est rencontrés il y a quelques mois, dans le cadre justement d'une des activités organisées par la Fondation. Et en fait, si je ne connaissais pas un petit peu déjà l'histoire de la Fondation et puis à quel âge tu avais perdu ton papa, etc., j'aurais pu penser que le deuil était encore extrêmement frais, de par les émotions que portait cet événement, en fait. J'aurais pu penser qu'il était parti il y a un an ou deux ans, tellement c'était la douleur de ces enfants est encore très présente.
Alors, moi, je ne parlerai pas de douleur, parce qu'effectivement, il y avait de la douleur au début. Oui. On ne le cache pas. Mais cette douleur, elle s'est apaisée avec le temps. Et puis, je dirais plutôt, c'est de l'amour. C'est de l'amour qui est là, qu'on transmet aussi à travers cette génération-là, parce que le travail qu'il a réalisé ne mérite pas de rester, comme j'ai dit tout à l'heure, dans des tiroirs. Et on essaie aujourd'hui de le transmettre à travers différentes générations, à travers des idées, à travers des choses qu'on a trouvées dans ses propres archives qu'aujourd'hui on met en place, comme le programme, notre programme phare, La musique s'installe à l'hôpital. C'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Il pratiquait aussi la musicothérapie dans son cabinet médical dans les années 70. Et on a trouvé dans certains de ses archives le rôle de la musique dans la médecine, dans la guérison de certaines maladies. Et d'ailleurs, c'était pas ses propres, c'est-à-dire c'était pas des inventions, c'était des choses basées sur des études scientifiques, sur des qui existaient déjà au 8e siècle, du temps d'Al-Farabi, d'Al-Kindi, de Ibn Sina. Donc lui, il mettait en place ces études-là qui étaient déjà faites par des savants, par des philosophes, par des médecins, déjà au 8e siècle. Donc aujourd'hui, je ne dirais pas douleur, mais je dirais un devoir de mémoire et un devoir de transmission. Parce que la douleur, elle s'apaise avec le temps. Et puis ce qui reste, ben, c'est l'amour.
Et cet amour aussi, et tu l'as très bien dit tout à l'heure, ton petit frère n'avait qu'un an. Donc toi, tu gardes des souvenirs, ta sœur aînée aussi, vous l'avez connue. Lui, il l'a connue à un moment où finalement, son cerveau ne peut pas avoir forcément de souvenirs. Est-ce que justement, ouais, tout ça le fait vivre en lui aussi, lui fait créer finalement aussi des souvenirs à travers tous les événements que vous organisez, etc. Lui fait créer aussi une histoire avec son père, même s'il n'est pas là.
Ben écoutez, je vais vous dire, ma mère a joué un grand rôle dans tout ça, parce qu'après un décès, ma mère, elle avait à peine 30 ans. Oui. Et donc, ma mère a fait vivre sa mémoire tout le temps. Il vivait avec nous. Et puis, on n'avait pas une vie commune. On avait une vie vraiment très particulière. Notre maison était grande ouverte à tout le monde. Elle recevait des artistes des quatre coins du monde. Et on a vraiment reçu des sommités internationale. Donc, c'était une vie assez particulière. Hein. C'était pas du tout une vie commune qu'on vit aujourd'hui. C'est vraiment la maison qui a reçu le Bolchoï, qui a reçu des compositeurs tels le compositeur azerbaïdjanais Fikret Jamil Amirov, qui est compositeur des Mille et Une Nuits. C'était vraiment la maison ouverte aux penseurs, aux philosophes, aux artistes, aux scientifiques. Et donc ma mère a joué un grand rôle dans sa mémoire parce qu'elle nous racontait toujours ce qui se passait. C'était chaque semaine, elle avait un goût différent. Chaque semaine, elle recevait des personnalités différentes. Donc on a vécu ça, ma sœur et moi. Et mon frère, il a écouté, c'est-à-dire qu'il a vécu à travers ce qu'on racontait, à travers ce que racontait ma mère, à travers... Voilà, et donc la Fondation, aujourd'hui, elle perpétue son héritage artistique, culturel, scientifique, voilà.
Alors, beaucoup de personnes ont du mal à faire le deuil d'une personne. Et ça veut dire quoi, faire le deuil, justement, Neila? Faire le deuil de quelqu'un, est-ce que ça veut dire... L'oublier, ça veut dire s'apaiser, ça veut dire tourner la page, ça veut dire avancer, ça veut dire quoi faire le deuil?
Alors, en toute sincérité, je pense que c'est quelque chose propre à chaque personne. Pour moi, c'est quelque chose, on ne tourne pas la page. Pour moi, je dirais c'est de l'apaisement. Parce que c'est comme voir un film, en fait, et quand on voit ce film-là, au début, il y a beaucoup de douleur. Et puis après, on voit ce film d'une autre manière. Il est toujours là, le film est le même, il ne change pas, mais il y a de l'apaisement. On le voit différemment et on le ressent différemment.
Par rapport à si une personne, justement, qui traverse un moment de deuil compliqué, venait à te demander conseil, est-ce que tu lui dirais de préserver la mémoire d'une personne partie à travers notamment une fondation? Est-ce que ça pourrait être un conseil aujourd'hui que tu donnerais?
Alors, je vais te dire en toute sincérité, Yasmine, pour moi, c'est quelque chose, la fondation, c'est-à-dire perpétuer à travers un travail, c'est quelque chose qui doit être mérité. On ne peut pas le faire à n'importe qui, une personne qui n'a rien fait de son vivant, on ne peut pas lui créer une fondation qui porte son nom. Donc, pour moi, c'était vraiment cette douleur de cet enfant, elle est allée chercher. Elle est allée lire et mon père faisait ses propres archives de son vivant. Donc il y avait des albums, il y avait des photos, il y avait des articles de journaux, il y avait des coupures. Et donc c'était cet enfant-là qui est allé, on va dire, s'apaiser à travers la lecture de ce qu'a laissé son père.
Oui.
Et donc au fur et à mesure, avec le temps, je découvrais que j'avais un patrimoine riche entre mes mains et que ce patrimoine ne méritait pas de rester dans des tiroirs. Et que j'avais, c'est-à-dire que je pense que chacun de nous porte une mission dans sa vie. Et j'ai ressenti cette mission que j'avais en moi, c'était de créer cette fondation. Et j'avais un devoir de transmission. Ce n'est pas uniquement faire le deuil, c'est vraiment un devoir de mission et un devoir de transmission envers cette génération-là.
Alors, à 8 ans et demi quand même, est-ce que tu étais au courant déjà de tout le patrimoine que ton papa avait laissé ou c'est... Ta maman qui
non.
a mis ça entre tes mains, comment ça s'est fait en fait? Comment la petite fille est allée chercher se nourrir de tout ça?
Alors justement, comme je te disais tout à l'heure, Yasmine, notre maison, elle accueillait différents artistes, différents. Donc on n'avait pas une vie, je vais dire, normale. On avait une maison déjà en elle-même assez particulière. On avait un théâtre au centre de notre jardin, un théâtre en plein air, où on avait des troupes qui venaient... jouer, on avait une galerie d'art au sein de notre jardin. Donc déjà, c'était quelque chose qui était très particulier. Et enfin, on nous posait la question, les amis, mais pourquoi votre maison est comme ça? Mais pourquoi ceci? Pourquoi cela? Donc déjà, il y avait je vais dire, entre guillemets, une différence.
Ouais.
C'est pas quelque chose de normal. L'enfant de 8 ans, il était là en train de voir qu'il y avait des choses quand même. On avait des week-ends mondains, des fois on ne devait pas, c'est-à-dire il y avait des cousins, des grands cousins qui venaient passer la nuit parce qu'il y avait des soirées spéciales auxquelles donc les enfants n'étaient pas conviés, on ne devait pas faire de bruit, donc il y avait certaines règles. Après le décès, mon papa, comme je disais, il archivait lui-même ses coupures des journaux, ces partitions. Et nous, on assistait à ça, on voyait ça, ça faisait partie de notre vie. Donc, après son décès, donc, il y avait, ma mère continuait de faire ce travail d'archives, donc les coupures de journaux après son décès. Et puis, les albums étaient là. Donc, l'enfant, il cherchait toujours. C'est-à-dire que ce n'est pas ma mère qui est allée me dire « va lire oui. ce que ton père a laissé ». Non, c'était une curiosité personnelle. C'était moi qui allais... c'est comme si je rencontrais mon papa, en fait. Hein. Oui, oui. J'allais chercher dans les albums, je regardais les photos, je me nourrissais, en fait, de ça. C'est-à-dire qu'il y avait un manque. Et j'allais nourrir ce manque de cette manière-là. Mm. Et puis, il y avait les cassettes audio, les cassettes vidéo. Donc, je regardais, j'écoutais et je découvrais parce que j'avais un papa à la maison. Mais il y avait un homme public que je ne connaissais pas forcément. Donc, c'est à travers ces archives-là que j'ai connu l'homme public. Et c'est là où il y a eu ce déclic. Et je me disais, ben non, il y a un patrimoine, il y a un héritage culturel. Il faudrait que ça sorte.
Alors, ça a aidé peut-être, enfin, je ne sais pas, je te pose la question, à faire connaître aussi ces hommes à ses petits-enfants.
Effectivement, ben, c'était aussi...
C'est pas une mémoire abstraite,
toujours.
Finalement.
Effectivement, ben, d'ailleurs, je me disais toujours, ben, mes enfants n'ont pas connu leur grand-père, mes neveux non plus. Mais aujourd'hui, quand on parle à mes enfants, à mes neveux, ben, ils sont capables de raconter la vie de leur grand-père comme s'ils l'avaient connu.
Oui.
Et ça, c'est vraiment extraordinaire, ne pas connaître une personne et le connaître à travers d'autres personnes. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. Mmh.
J'aimerais tellement interviewer aussi ta maman pour voir comment finalement à 30 ans, on élève seul 3 enfants. Ça, c'est très particulier aussi, c'est très courageux.
C'est très courageux, c'était très dur pour elle, surtout que c'était une femme très protégée. Et elle ne travaillait pas du vivant de mon papa. Elle a dû travailler après son décès. Et effectivement, c'était une bataille. Et c'est une femme battante.
De tout ça, justement, tu as appris quoi sur la personne que tu es ? Toutes ces choses qui t'ont forgée.
Écoute, Yasmine, moi, je pense que chacun de nous a un caractère. Et puis, je pense que la vie... c'est la vie qui nous apprend à être ce qu'on est aujourd'hui. C'est à aucun moment, c'est-à-dire de la vie, on pense à la mort. Donc moi, je vis avec la mort dès l'âge de 9 ans. Donc ça fait partie, en fait, de notre vie. Et puis, il y a des choses qu'on... perdre un être cher très enfant, c'est vraiment... C'est cruel, hein. C'est vraiment cruel. Et puis après, la vie prend un autre tournant. On avait vraiment une vie de prince et de princesse, et du jour au lendemain, la vie bascule. Donc là aussi, c'est une étape de la vie, c'est une autre manière de voir la vie. Et puis il faut se battre, il faut continuer de vivre, il faut continuer d'exister, il faut étudier, il faut travailler. Et donc c'est une étape. Je dirais que chacun dans sa vie a... La vie est une école, tout simplement.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est justement... Est-ce que parfois tu as peur de... Est-ce que tu as... Enfin, c'est une question assez particulière que je vais te poser, mais en tant que maman, est-ce que tu as déjà eu la crainte aussi de éventuellement laisser tes enfants de la même manière que tu as grandi sans ton papa ?
Écoute, quand on perd un être cher très jeune, la mort, elle est dans notre tête, elle est dans notre esprit. C'est quelque chose qui est palpable, c'est quelque chose de factuel. Donc déjà, on vit avec la mort différemment. Et on se dit, il faudrait profiter de l'instant présent. Et d'ailleurs, mon papa, vraiment, dans ses 45 ans, il a bien vécu. C'est comme s'il savait qu'il allait mourir très tôt. Hein. Donc je me dis, au contraire, il faudrait, on voit la vie différemment. C'est-à-dire qu'on se dit que la mort est là. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Donc, il faudrait vivre chaque moment et le vivre bien, qualitativement.
Oui. Ouais.
Donc, voilà. Par contre, quand j'ai eu mes 45 ans, quand j'ai fêté mes 45 ans, et là, je me suis dit, à cet âge-là, mon papa est décédé. Et là, je me dis, waouh, comment il a pu faire tout ça en cet espace de temps. Aujourd'hui, j'ai 45 ans, je n'ai pas réalisé le quart de ce qu'il a réalisé. Mmh. Et donc, arriver à cet âge-là, ça questionne, ça bouscule.
Ouais.
Effectivement, effectivement.
Neila Fenech, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui et merci pour cette conversation extrêmement humaine et honnête et remplie d'émotions.
Merci beaucoup à toi Yasmine, merci d'avoir pensé à moi, merci d'avoir partagé ce moment avec moi et merci d'avoir partagé il y a quelques mois ce moment au sein de la Fondation pour le lancement du programme Le Livre s'installe à l'hôpital.
Merci Neila. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.